Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Huitième manche du championnat du monde à Monaco. Ah, le Grand Prix de Monaco. On a eu un samedi royal en principauté. Un dimanche qui nous a peut-être fait un peu sortir de tous ces titres de noblesse. Mais malgré tout, un week-end à Monaco, ça reste magique. Surtout quand le championnat est relancé grâce à la victoire de Lando Norris. Et surtout quand des Français terminent dans les points. Il s'est encore passé plein de choses à Monaco, à débriefer avec notre team principal à nous, Jean-Luc Roy from Miami. Salut Jean-Luc.
Yes, hello sir, how are you?
Fine and you. Ah bah, puis en plus moi les gars je rentre de Cardiff. Alors je vous ai écouté.
Bah oui, t'en viens, c'est pour ça que je te parle en anglais.
Eh oui, je vous ai écouté pour le warm-up du Grand Prix de Monaco. Mais alors là, j'ai adoré ce casting hein. Avec un petit rookie Serafin là, Louis Gerbier en patron du paddock. Là je me suis régalé hein. Et puis Jean-Luc, c'est bien de t'avoir avant les courses aussi.
Hein, bah, c'est pas top, mal, hein, bah, ouais, moi je veux bien. Hein. C'est toujours un plaisir de partager avec vous et avec nos centaines de milliers d'internautes.
Millions depuis vendredi, millions. C'est millions.
Millions. Ouais. Ah, bah, ça y est, on a franchi millions.
Bon. Et bah, on va viser le milliard hein, d'ailleurs. Hein. C'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé avant la fin de la saison, bien évidemment. Même si c'est vrai que vous êtes de plus en plus à nous écouter, on grossit un peu le nombre d'auditeurs, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, comme le dit Vincent Moscato. C'est un peu le Peter Bonington du paddock RMC. C'est un ingénieur qui fait gagner. Louis Gerbier est avec nous. Salut Louis.
Salut Nico, salut Jean-Luc. Et salut à tous. Heureux de te retrouver aux commandes.
Ah oui.
Avec un foie diminué, mais la bonne humeur est là.
Mais tu sais, ça fait que confirmer que, tu vois, même si Christian Horner se barre de chez Red Bull, la machine continue à tourner, tu vois, quand le patron s'en va. Et avec la même efficacité, voire des fois, encore plus d'efficacité. Et c'est ça qui est beau. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, que vous nous mettez une petite note, super important pour référencer le podcast, et que c'est le moment de notre note de ce Grand Prix de Monaco. Jean-Luc, sur 5, combien on donne à cette course ? Il y a ce week-end même. Hein.
Bon. Ah bah écoute, là je vais être assez terrible, pour une fois. Je donne 1,5 et je donne 1,5 point de bonus parce que c'est Monaco. Et je vais expliquer bah, comme d'hab, évidemment.
Ça c'est bon ça. Je crois qu'on est sur la note la plus catastrophique du début de saison.
Hein. Ouais.
On n'a jamais eu un moins de 2,5 ou un petit 2, je suis même pas sûr.
Ouais, je crois pas.
Loulou, combien tu donnes toi ?
Bah... Si on parle du week-end en entier, je peux monter à 2,5-3, mais si on parle de la course, ouais, 2.
Ouais, ben t'es obligé d'englober le week-end quand même, parce que le samedi à Monaco, c'est ce qu'on veut tous voir.
Bah ouais.
Donc allez, un petit 2,5. Ok. Bah les gars, on va se plonger tout de suite dans ce qui a fait ce Grand Prix de Monaco. Édition 2025, c'est parti! Le classement de la course, Lando Norris l'emporte à Monaco avec plus de 3 secondes d'écart. Sixième victoire de la carrière de Norris sur le pilote Ferrari. Charles Leclerc qui a bien cru le samedi s'emparer de la pole position avant que Norris vienne le sauter sur la ligne, comme on dit. Leclerc qui doit se contenter de la deuxième position. Troisième place pour le coéquipier de Lando Norris, Oscar Piastri, qui complète le podium. Max Verstappen est quatrième. Lewis Hamilton sur sa Ferrari cinquième. C'est pour Ferrari le week-end le plus productif depuis le début de la saison. Sixième place magnifique pour Isaac Hadjar qui continue de confirmer week-end après week-end. Esteban Ocon qui est ressorti de sa boîte, septième sur sa AS. Liam Lawson, le coéquipier d'Hadjar, on va en reparler parce que ça a fait un peu jaser la stratégie des Racing Bulls, et huitième. Alexander Albon, neuvième. Et Carlos Sainz, dixième sur sa Williams. Mercedes s'est complètement manqué sur ce Grand Prix de Monaco avec un George Russell 11e et un Andrea Hakimi en Antonelli qui a terminé 18e. Puis enfin, Pierre Gasly a tapé Yuki Tsunoda et donc n'a pas terminé cette course. Voilà pour les grands enseignements de ce Grand Prix de Monaco. Au championnat, par contre, ça relance tout. Je vous le disais, puisque Oscar Piastri n'a plus que 3 petits points d'avance sur Lando Norris. 161 points pour Piastri, 158 pour Lando Norris. Max Verstappen est légèrement décroché. Il reste quand même dans le rétro, hein, Verstappen, puisque 136 points, il est à 25 points de Piastri. George Russell, 4e, mais il y a une belle remontée de Charles Leclerc qui recolle à 20 points de Russell au championnat du monde. Et Isaac Hadjar qui consolide sa place dans le top 10 avec 15 points. Esteban Ocon également, 20 points pour Esteban quand on voit son début de saison. C'est vrai qu'on se dit que bah, c'est un peu lunaire, mais à chaque fois qu'il a le moyen de marquer des points, il les marque bien, Esteban Ocon. Et puis au classement des constructeurs, alors là, McLaren, c'est même plus l'envolée. Là. Ils ont deux tours d'avance sur tout le monde, 319 points. Mercedes est deuxième, 147 points. Ce qui va être assez sympa à suivre, c'est cette lutte pour la deuxième place, puisque Mercedes, Red Bull et Ferrari se tiennent en 5 points. La Scuderia a recollé à un petit point de Red Bull, qui est troisième de ce championnat constructeur. Voilà, derrière, Haas a conforté sa sixième place, et Racing Bulls, avec son bon week-end, grappit sur Haas à la septième position. Alpine est toujours avant-dernier avec 7 points. Voilà pour les stats. Les gars, Jean-Luc, avant de parler de la victoire de Norris, voilà, et de ce week-end sportif, je voulais qu'on écoute Carlos Sainz, parce qu'on a beaucoup parlé, je vous ai entendu dans le warm-up, de ces deux arrêts obligatoires à Monaco. On disait que ça pouvait bouleverser pas mal de choses au niveau stratégique, que c'était une bonne idée. Et il y a certaines équipes qui se sont emparées de cette nouvelle règle et qui ont... Carlos Sainz parle de manipulation de la course. Les mots sont forts. On va l'écouter et après je vous fais réagir.
Yeah, I found it honestly very boring. And,
j'ai trouvé la course vraiment très ennuyante. Quand on pilote une Formule 1 à 3 ou 4 secondes de son rythme normal, moi, c'est pas de ça dont je rêve quand je pense au Grand Prix de Monaco. Ce n'est pas de faire ce que nous avons dû faire aujourd'hui. Malheureusement, nous avons d'abord été des victimes après ce que nous a fait Lawson. Il nous a ralenti de 40 secondes pour donner un arrêt au stand gratuit à Hadjar. Et vu qu'on allait être 19e et 20e, on a dû faire la même chose à notre tour. Je pense que certaines équipes ont un peu manipulé la course pour que leur voiture termine dans les points. Moi, j'aime pas faire ça. J'aime pas qu'on me le fasse. Et je pense que les autorités doivent trouver une solution pour que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne devrait pas être autorisé. Voilà, Carlos Sainz. Qui a des mots forts, Jean-Luc, sur cette course. J'imagine que ça a contribué à ta note de 1,5.
Ah bah ça a plus que contribué. Écoute, là j'y réfléchissais, bien sûr. On essaie d'être adulte et professionnel, si on y arrive, et pas trop partial. Moi j'ai toujours de l'enthousiasme, hein. Je continue à me passionner évidemment pour ce qu'il reste de sport dans la Formule 1. Et je pense qu'un de mes rôles, si je peux m'exprimer ainsi, là aussi oser le dire, nous qui avons connu autre chose, c'est d'essayer. Alors bien sûr qu'il y a eu des processions à Monaco, j'évacue tout de suite la question. Bien sûr que j'évoquais même pendant le direct sur RMC le fait qu'Ayrton Senna avait retenu Nigel Mansell très longtemps. Bien sûr qu'on a connu ça toujours à Monaco. C'est la configuration du circuit qui veut ça, qui est très particulier, etc. Mais on le garde parce que Monaco, c'est l'événement glamour, etc. Sauf qu'il n'y en avait qu'un dans la saison. Maintenant, il y en a combien, si vous faites le compte d'événements glamour? Et moi, je reprendrai, alors, Carlos Sainz a bien résumé la situation, parfaitement résumé la situation. Donc là, on peut dire que la preuve est faite qu'un deuxième arrêt, ça ne sert à rien, c'est un échec, parce qu'évidemment, et c'est normal, les écuries essaient de tourner les nouvelles règles à leur avantage. Et moi, je vais aller tout de suite dans le sujet, là, on va en reparler, vous voyez. Il y a une stratégie qui est beaucoup plus efficace que toutes celles qu'on a vues. C'est la stratégie dite du Singapour Gate. Vous me voyez venir?
Bien sûr que j'y pensais très fort hier.
Bien sûr que moi j'y ai pensé très fort. Il est revenu aux affaires, notre ami. Alors peut-être ce qui l'a empêché, je vais oser, je mets les pieds dedans, c'est que Pierre Gasly a disparu très vite, au 7e tour. Non mais on peut tout imaginer, les gars, puisqu'on l'a vu une fois. Et là, il va dire, mais c'est pas possible, il s'est complètement loupé, Colapin. Thomas ne sait pas ce qu'il a fait, il s'est raté dans la sécane. Et là, on avait une stratégie formidable pour au moins une équipe. Alors, il y a un moment où ça devient vraiment très compliqué, ce genre de situation. Comme l'a dit Sainz, tout le monde est un peu honteux, et même le vainqueur, si on entend Norris, il n'était pas très fier non plus de ce qu'il a fait, parce qu'il s'est emmerdé, il faut être clair. Les 15 ou 20 derniers tours, puisque Verstappen traînait devant, lui aussi en attendant un hypothétique drapeau rouge qui risquait pas d'arriver, puisqu'ils roulaient tous à 5, 6, 7, 8 secondes des temps, donc ils avaient le coude à la portière. Tous les pilotes l'ont dit, ils essayaient de pas s'endormir. Bon, c'est dramatique, c'est du Mario Kart, voilà, dernière expression utilisée par Verstappen, ce qui justifie ma note catastrophique.
Ouais, Louis, c'est vrai que quand on entend des pilotes dire qu'ils roulent à 4, 5, 6 secondes de ce qu'ils peuvent faire, c'est assez dramatique pour le sport, quoi, pour la Formule 1.
Bah oui, oui, c'est clair, mais après, cette règle-là, fallait être quand même bien naïf pour mettre une règle à des ingénieurs de F1 et croire qu'ils n'allaient pas essayer d'en tirer profit au maximum, parce que c'est la base de la F1. Et c'est vrai que du coup, bah, cet effet pervers, les observateurs de la F1, ils en avaient parlé dès le début du week-end en disant on voit le truc venir gros comme une maison. Et sur le moment où ça sert à Hadjar, tu trouves ça génial, mais en fait, très rapidement, tu te dis ouais, tu peux pas appeler ça de la triche, c'en est pas.
C'est l'interprétation du règlement.
C'est pour ça que, quand j'ai entendu le mot triche ou quoi, non. Après, c'est toujours l'histoire de l'esprit, mais on sait qu'en F1, l'esprit, c'est secondaire. Le but, c'est de gagner.
C'est le pognon.
Ouais.
Bah, oui.
Et donc, c'est clair que ça a rendu une course assez insipide. On a eu une demi-émotion quand Charles mettait un peu de pression à Norris. Mm. Sauf que dès que Verstappen est rentré, bah, comme tu l'as dit, Jean-Luc, les gars, ils avaient 5 secondes sous le pied. Donc, bah, Norris, il a mis un coup de gaz, il est reparti. Donc, enfin, ouais, ça a été un.
Ça fait pas très sérieux, hein, tout ça.
Ouais, ça fait pétard mouillé. Comme tu dis, ça fait pas très sérieux, ça fait pas très F1. Il y a peut-être des choses à penser, on va dire, moins artificielles.
Mais il faut
peut-être
tout simplement accepter que Monaco soit une exception dans l'année.
Monaco, c'est le samedi, quoi, tu vois. Et le dimanche, c'est la procession.
Si vous voulez bien une explication, les gars, aussi, je l'ai déjà avancé, hein, je l'ai déjà dit avant, c'est qu'ils pilotent des camions. Ce sont devenus des camions. Alors, ils s'en sont tellement rendus compte. C'est tellement des camions, les pilotes s'en plaignent depuis des années. 900 kilos en ordre de marche au départ d'un Grand Prix. Mais c'est complètement dément. Avec des pneus en bois qui sont obligés de ménager au maximum pour tenir. Donc, le problème, il est là. C'est un problème de réglementation. Ça incombe totalement à la FIA, une nouvelle fois. Parce que ces voitures, c'est pas 30 kilos qu'il faut leur faire perdre comme on a envisagé de le faire la saison prochaine. Et puis 10 centimètres en largeur, je ne sais même plus combien, 30 en longueur. Enfin bon, là il faut une notion absolument radicale. Alors, on peut toujours rêver, hein. Peut-être que, comme ils se rendent compte que là, ça va devenir une cata, et que bon, comme ils disent, on peut intéresser les fans, mais non, ce n'est pas un scénario de film, là, les gars. Là, il faut se réveiller, là. Ce n'est pas le film que tout le monde en sens avant même de l'avoir vu à la fin du mois. C'est la vraie vie, là, les gars. C'est du sport. Enfin, c'est ce qu'il en reste. Donc, il faut sauver ce qu'on peut sauver de sport. Bah c'est marrant, hein, je connais quelqu'un qui avait écrit un bouquin qui s'appelle « Il faut sauver le soldat F1 » il y a quelques années.
Grand homme.
Non, je dis pas ça, mais bon, je mettais, et avec 50 témoignages, hein, je mettais l'accent effectivement sur, malheureusement, les dérives de la Formule 1. Alors après, bon, on en pense qu'on en veut, hein, là aussi. Comme je le dis toujours, quand on prend des positions aussi tranchées, on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord.
Bon, moi, non, mais là, tous les pilotes t'ont rejoint ce week-end, Jean-Luc, et vous rejoignent. Je vous cite la déclat là, de George Russell avec son ironie british, qui est quand même assez incroyable. Il dit « Alors moi, j'ai une très bonne idée. Chaque pilote a un bouton et ça permet de déclencher un arrosage automatique. Ouais. Et on décide si on le fait en qualif, en course, mais on ne peut le faire qu'une fois dans tout le week-end. Tous les pilotes l'ont. »
Tu sais que c'était une idée de Bernie Ecclestone. Mais oui. Il l'avait dit, en rigolant, hein, comme Bernie savait le faire, pour créer l'événement. Il avait dit, je te parle d'il y a une quinzaine d'années, sur certains tracés, ça devient tellement chiant qu'il faudrait arroser certains virages, pas tous. Ah ben oui, allons-y. Non, mais là, ça devient du Mario Kart complètement. Là, c'est plus du sport. Voilà.
Moi, je vous reparle de ma théorie de vendredi dernier sur une deuxième voiture plus petite juste pour Monaco.
Ah oui. Ouais. Ouais. Eh ben, tu vois, tu rejoins, ouais. Pourquoi pas. Ouais.
Parce que
pas
ça fait combien de temps
en tout cas, c'est la course à l'échalote des grandes idées. Pourquoi pas. Hein.
Bah les Formule 2.
Ouais, voilà. Bah d'ailleurs, c'est bien passé hier au premier virage d'ailleurs.
Ah, impeccable, nickel. Réussi. Ils en ont éliminé que 11, donc c'était bon. Bah après, il y avait plus de place pour ceux qui restaient tout le temps.
Ah oui, parce que pour ceux qui ne suivent pas la Formule 2, Victor Martins, le français, avait pris la première position. Il s'est fait découper par Alex Dunn au premier virage. qui a planté quoi, une quinzaine de voitures.
Il y en a eu 11 qui sont restés sur le carreau.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, Jean-Luc, parce que c'est débat sur Monaco. Bon, tu le disais, des processions à Monaco, il y en a toujours eu. Oui. Mais ça fait quand même 10-12 ans que ça revient régulièrement sur le tapis, depuis qu'on a fait des monoplaces de plus en plus grosses. Avant, il y avait quand même la possibilité de voir des choses à Monaco.
Bien sûr, écoute, tu sais, j'ai quand même étudié les stats un peu pour en discuter dans diverses émissions sur AMC, puisque tout le monde en parlait ce week-end. Alors, si on prend les 20 derniers Grands Prix, c'est-à-dire, c'est tout simple, depuis en gros un peu après le début du siècle, dans 14 cas sur 20, c'est effectivement le poleman qui l'a emporté, donc 70% des cas. Bon, c'est beaucoup, c'est énorme. Et si on rajoute 5 courses, les 5 courses précédentes, c'est plus le cas, dis donc. Parce qu'en 99, Hakkinen fait la pole, c'est Schumacher qui gagne. En 2000, Schumacher fait la pole, c'est Coulthard qui gagne. En 2001, Coulthard fait la pole et c'est Schumacher qui gagne. En 2002, Juan Pablo Montoya fait la pole, c'est Coulthard qui gagne. Et enfin, en 2003, c'est Schumacher, Ralph, et oui, ça arrive, qui fait la pole et c'est Montoya qui gagne. Donc tu vois, tu rajoutes 5 Grands Prix d'un seul coup et là, du coup, tu tombes à 56%. Parce que, t'as toujours le même nombre de gars qui gagnent, mais cette fois sur 25 Grands Prix. Donc, tu vois que les stats, c'est toujours extrêmement délicat. Il faut les analyser. Alors, néanmoins, ça perdure, ce que tu dis. C'est toujours un circuit sur lequel il est très difficile de dépasser. Maintenant, j'évoquais également ce week-end, dans une des émissions, Olivier Panis. Olivier Panis, 97. Vainqueur français en 96, je l'ai commenté 16. En direct, cette course. Il était parti 14e sur la grille. Alors, il y a eu de la pluie. On en vient toujours. Pourquoi je fais la danse de la pluie tous les vendredis? Parce qu'il faut qu'elle tombe à un moment. C'est ça qui nous apporte un élément non maîtrisable par les équipes, où là, du coup, le talent des pilotes reprend le pas sur les stratégies. Parce que les stratégies aussi, Christophe Cessieux, ce week-end, j'essayais d'expliquer pendant la course ce qui se passait. Il me dit, mais oui, c'est emmerdant, on n'y comprend rien. Et il a raison. La majorité des fans, comme on les appelle, n'y comprennent rien. Et c'est normal. Alors, où tu commence à tenter d'expliquer quelque chose et là ça devient extrêmement complexe et carrément très chiant, soyons clairs. Ou alors tu te bases sur c'est machin qui a gagné et, c'est lui le plus rapide forcément . Non mais tu vois c'est vraiment basique et Monaco cristallise à mon avis une grande partie des défauts fondamentaux de la Formule 1 et je reviens d'où j'étais parti, il faut refaire un règlement technique de la Formule 1 pour remettre en avant la vivacité des monoplaces, le talent des pilotes, la légèreté. Et il y a un élément, et je termine là-dessus pour le moment, évidemment, remettre des disques en acier pour le freinage. Parce que tu vas
rallonger. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ?
Ça change tout. Les disques en carbone et les plaquettes sont tellement efficaces que tu freines tellement tard. Et je reprends toujours, on va y arriver la semaine prochaine. Barcelone, la plus longue ligne droite de la saison, 1 km 200, où les monoplaces déboulent à 335-340 sans le DRS. Donc ils ont le temps de se lancer. Et ils freinent après le panneau 100 mètres, bien après. Ils freinent en gros à 85 mètres. Mais comment veux-tu, sur une distance de freinage aussi réduite, quand tu perds, puisque la première courbe, là, c'est de mémoire, là aussi, elle se passe à 140-150, quand tu perds en tout cas environ 200 km/h en 80 mètres, comment veux-tu dépasser ? T'as même pas la longueur d'une bagnole entre un super freineur et une buse. Ça va pas. Alors que si tu mets des freins en acier, tu vas refreiner à 120-130 mètres. Alors on me dit, on revient en arrière. Mais on s'en fout, c'est un sport. Parce que demain, on va freiner à 50 mètres. Et là, il n'y aura plus jamais un seul dépassement au freinage. Surtout que tu rajoutes à ça le fait que les pneus en bois que fournit Pirelli maintenant, ils sont tellement bien faits que dès que tu sors de la trajectoire, tu n'as plus d'adhérence. Ça adhère quand tu es sur la gomme. Et forcément, le type qui va se faire dépasser, il reste sur la bonne trajectoire. Donc quand tu sors, tu trouves la poussière et les boules de gomme et tu ne peux plus freiner. C'est bon comme démonstration ?
Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est vrai que tu touches quand même des soucis ou des problèmes récurrents de la Formule 1, c'est que l'innovation technologique fait que tu vas jamais revenir en arrière, alors qu'il y avait de très bonnes choses avant et des choses qui pourraient remettre du suspense, entretenir plein de choses lors des courses. Et c'est vrai que sous prétexte de l'innovation technologique, on a peur des fois de rétro-pédaler et de revenir à ce qui se faisait de bien avant. Parlons quand même de Lando Norris et de ce qui s'est passé sur la piste, malgré tout. Parce qu'il y a quand même un vainqueur. Et Lando Norris, quoi qu'on en pense, il a probablement fait sa plus belle séance de qualif de sa carrière. parce qu'à Monaco, quand tu fais ce tour-là face à Charles Leclerc en plus, qui était quasiment persuadé qu'il allait la prendre, c'est très fort. Et puis bon, derrière le dimanche, ce qu'on va retenir surtout, c'est que bah, mentalement, il a su répondre présent et qu'il revient au championnat, quoi.
Ouais, ouais, non, gros week-end de Lando Norris, parce que bien qu'on le critique pas mal dans ce paddock ces derniers temps, ça reste un bon pilote et il fallait le remontrer et il le fait à Monaco. Et je pense qu'à Monaco, tu as toujours un truc spécial dans un pilote qui arrive à le faire. Déjà, il range un de ses objectifs de carrière, je pense, parce que je pense qu'ils sont tous à se dire je veux être champion du monde et gagner Monaco, en gros. Donc, tu vois, il y a le ça c'est fait. En plus, maintenant, ils habitent tous là, donc ils veulent tous gagner leur course.
Ah oui, les résidents monégasques.
Voilà. Donc là, il peut se dire ça c'est fait. Maintenant, à chaque fois qu'il passera dans les rues en bas de chez lui, il se dira putain, j'ai gagné. Donc ça c'est bien. Ça relance le championnat puisque du coup, il se retrouve juste derrière Piastri, vraiment collé. Et surtout ça continue d'annoncer un peu la fin de ce mauvais début de saison. On se disait la semaine dernière que ça commençait à aller mieux pour lui. D'ailleurs, on commençait à plus trop en parler parce qu'il était dans cette phase où il refaisait pas d'exploits, mais il faisait plus non plus de, il décevait moins, il faisait plus, d'erreurs ou de choses comme ça. Et là, il remonte quand même quelque chose parce que pour le coup, on s'est embêté dimanche, mais samedi, c'était quand même bien sympa. Et on a eu à la fin Leclerc qui vient battre le record de la piste. En une 10-0-63 ou quelque chose comme ça, et Norris qui vient être le premier à descendre sous les 1-10. Donc ça c'est quand même bravo pour cette performance, et surtout ça donne de l'espoir pour tous les fans de Lando, les fans de Norris pour la fin de saison, parce que c'est peut-être l'annonce d'un retour, quoi, l'annonce d'un retour, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais il est de nouveau dans le match avec Oscar. Et ça peut peut-être un peu changer mentalement son approche de la fin de saison. Et puis la dernière chose, il a fini la soirée avec Kylian Mbappé. Donc oui, ça peut lui, ça peut le, voilà, c'est que des bonnes nouvelles.
Tiens, on l'écoute, Lando Norris, bien évidemment, c'est au micro de nos confrères de Canal+, qui sont diffuseurs du championnat du monde de Formule 1.
Always under control.
Ah, tout était sous contrôle.
No, I mean, there was for sure some moments where Charles was close.
Non, il y a eu des moments où Charles était proche, oui. Plus j'étais proche de Max, plus Charles était proche de moi et me mettait sous pression. Mais j'ai bien géré la situation. La meilleure chose à faire était de ne pas être trop proche de Max, de prendre davantage mes distances pour me permettre de mieux contrôler les choses. Mais c'est Charles Leclerc et nous sommes à Monaco. S'il y a une personne que je ne veux pas derrière moi, c'est Charles Leclerc à Monaco. Il y a eu des moments plus compliqués que d'autres, mais pour la majeure partie de la course, tout était sous contrôle. Voilà, Lando Norris, Jean-Luc, qui... En fait, Lando Norris, c'est peut-être juste un pilote qui sera peut-être un peu moins régulier que les autres, mais qui est capable d'aller chercher des courses par-ci, par-là, mentalement. Il n'est peut-être pas encore prêt pour faire une saison pleine quand on voit un petit peu ce début de saison après 8 courses.
Bah écoute, il est en train de rebâtir sa confiance et il faut lui rendre hommage, hein, là aussi, parce que, je répète cette formule, je sais bien, Beaumarchais, hein, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, bah on l'a critiqué quand il fallait, on l'encense quand il le faut.
Bah, pas trop loin, Jean-Luc, hein, parce que moi, tu sais, le bac L, moi je suis passé par la filière scientifique, hein, je les ai pas toutes, les références.
En tout cas, tout est dans la formule, c'est-à-dire si on n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, quand on l'encense, ça ne vaut pas grand-chose. Bah, nous, on a critiqué Norris quand il fallait le critiquer, me semble-t-il, parce qu'il n'était pas au niveau. Il est en train d'y revenir. Alors, il a mis un tout petit bémol, hein, comme tu le sais, une partie de l'interview après l'arrivée. Il disait « Je suis en train de reconstruire ma confiance, mais la voiture n'est pas encore exactement comme je le souhaiterais. » Bon, en tout cas, il est sur la bonne voie, comme Louis le soulignait très justement. Il a fait une pole à Monaco, c'est quand même quelque chose. Et là, lui, le premier, il savait que s'il ratait pas complètement son départ, bah ça y est, il avait course gagnée. Donc, il a fait le boulot. Écoute, il était raisonnablement satisfait pour l'excellent travail qu'il a fait. Il le mérite. Effectivement, au championnat, on a un regroupement, ça c'est pas mal, hein. On a que 3 petits points d'écart entre les deux. Comme on leur laisse pour le moment la faculté de se bastonner, pourvu que ça dure, donc on devrait avoir quelques belles courses. Et puis on a le poil à gratter, Verstappen, bah, qui est là pas loin. Alors, il a fait ça à sa manière, parce que là aussi, je pense qu'ils ont joué pour quelque part bafouiller les nouvelles règles en disant, bah, voyez que ça sert à rien, puisque je vais au bout de la course, bon, change une fois parce que je suis obligé, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Et puis, lui, il essayait de freiner en se disant, bah, malgré tout, avec mettre les trois derrière, on sait jamais ce qui peut se passer à un moment ou à un autre. Hein. Donc c'était son jeu, puisque de toute façon, il savait qu'il terminait quatrième, puisque pour chronométrer Hamilton derrière, il fallait un calendrier. Hein. Il était à plus de 50 secondes, donc il ne se passait rien du tout. Donc il savait qu'il terminerait quatrième, d'où il était parti. C'est d'ailleurs juste un mot là-dessus. C'est ça qui est catastrophique. Si vous prenez le classement des 10 hommes dans les points, bah à part le pauvre Fernando qui, une nouvelle fois, doit se retirer et donc perd sa position, il était quand même 6e sur la grille, et à part le fait qu'Hamilton, quand même, avec sa Ferrari, il a réussi à passer à Jarre, hein, avec la stratégie, bah ça y est, c'est plus rien passé. Tous les autres sont exactement dans l'ordre du départ. Hein. Et c'est la raison pour laquelle Sainz, qui est parti 11e, arrive 10e. Donc, c'est un beau week-end pour Lando. Ça le remet dans le coup. Ça lui redonne de la confiance. Allez, rendez-vous à Barcelone dans moins d'une semaine. Et là, sur un circuit qui est quand même une référence. Alors, on va encore me dire, ouais, on passe pas non plus et tout. Mais moi, je l'aime bien, ce tracé. Alors, on sait qu'on va l'abandonner aussi, hein, puisque le contrat avec Madrid est signé. Bah, c'est dommage, parce que c'est un vrai tracé de Formule 1 avec un panel de difficultés assez larges, avec cette longue ligne droite où là on peut dépasser, surtout avec le DRS aujourd'hui.
Mais l'avantage, c'est que Madrid, il fait rêver. Tu vois, quand on a vu le tracé, là, on se dit ça va être magnifique.
Ouais.
Non, c'était de l'ironie,
ouais.
Jean-Luc.
Mais... Ouais,
il a l'air affreux, ce truc-là.
C'est les mêmes qu'à Las Vegas. Hein.
Ouais, voilà, bah,
c'est les mêmes que partout.
Urbain, mais... comme à Las Vegas.
Ouais. Circuit de Mickey, je l'ai dit, jeudi. Circuit de Mickey, un autre.
Ouais. Louis, alors toi, tu devais être content, toi, pour ton Charles Leclerc là, et ta Scuderia Ferrari quand même hier.
Bon week-end. Après, c'est sûr que tu t'attends pas à grand chose. Tu te dis, est-ce que les deux arrêts, est-ce que McLaren peut se rater une fois ou quoi? Mais bon. Après, bonne course. Lui aussi, il avait l'air plutôt satisfait, même s'il espérait mieux, évidemment. Je pense qu'il est aussi content de compléter la collection des trophées à Monaco. Il en a 2 sur 3 maintenant, si je ne me trompe pas.
Oui.
Ça fait des points. Lewis est un peu derrière. D'ailleurs, c'est assez bizarre ce qui se passe avec Lewis et Hadjar, parce que du coup, il se fait doubler. Puis après, il perd tellement de temps qu'en gros, ils sont toujours 5-6, mais l'autre est quasiment un tour derrière. Tout ça pour dire que c'était quand même un peu n'importe quoi.
Hamilton, après la course, on lui demande est-ce que vous avez compris un peu ce qui se passait au niveau de la stratégie. Il dit non, j'ai rien compris.
Ouais.
j'ai rien compris à ce qui s'est passé.
Il s'est ennuyé, il a roulé tout seul le temps. Il a vu personne, lui. Hein. Lui était tout seul à Monaco.
Il était perdu dans le film Eric et Ramsey, la seule toux quand ils conduisent la.
Il s'est ennuyé. Il a élaboré quelques nouvelles tenues de mode pour sa prochaine présentation et puis sa collection, c'est mieux.
Ah bah ça, les Lewis à Monaco, c'est
scénarios
toujours
de films, hein, puisqu'il va produire des films, donc voilà. Il a pensé à son chien aussi. Enfin, il a fait plein de choses.
Mais il a conduit tout seul. En tout cas, c'est quand même le week-end le plus prolifique, on le disait, de Ferrari depuis le début de saison. 28 points. Ça va mieux depuis Bahreïn. Clairement, je vous donne un petit peu le début de saison de la Scuderia, hein, mais c'était seulement 5 points en Australie. En Chine.
La Chine, il y a des déclassements. Hein, là, ça pèse lourd.
Ouais, il y a eu le déclassement. Japon, 18 points. Et puis derrière, Bahreïn, 22. Arabie Saoudite, 21. 16 à Miami. 20 à Imola la semaine dernière. Et 28 à Monaco. Donc ça va mieux, Jean-Luc, hein, pour la Scuderia.
Oui, c'est le meilleur score, hein, global, effectivement. Bon, on a parlé des déclassements de la Chine qui ont quand même pesé très très lourd et fait perdre un paquet de points, surtout qu'il y avait une sprint race, hein, donc c'est d'ailleurs là qu'ils marquent les points, avec la victoire d'Hamilton, bien évidemment. Donc ça va un peu mieux. On a du mal sur un tracé comme celui de Monaco à juger exactement de ce qui se passe. Bon, à Imola, c'était pas trop mal non plus, hein. Charles est très frustré parce que là, lui, pour le coup, la stratégie, une nouvelle fois, n'était pas en sa faveur, et puis surtout la sortie des virtuels et du safety car n'ont pas été en sa faveur, alors que ça a parfaitement collé pour Lewis, hein, ce qui lui a permis de remonter de 12 à 4. On va attendre justement Barcelone avec des nouveautés, bien sûr, puisque là il y en aura encore pas mal, et l'application du règlement, j'y reviens, et on va réellement voir là où se trouve globalement la Scuderia par rapport à ses adversaires. Je parle même pas de McLaren qui est vraiment tout seul dans sa catégorie, mais par rapport à Mercedes, qui était malheureusement pour eux nulle part à Monaco, mais à cause des très très mauvaises qualifs, hein, eux aussi, ils n'ont pas voulu adopter une stratégie stratégie, j'allais dire, brimatoire. Et d'ailleurs, c'est James Walls hein, qui a carrément envoyé un SMS à Toto Wolff pour s'excuser de la stratégie qu'ils avaient mis en place, qui les a encore plus pénalisés. Non, ben, quand on en arrive là, si tu veux, là, c'est grave quoi, quand même. On est désolé, on est obligé de faire ça pour prendre des points, mais on n'en est pas fier. Bah ouais.
Ah oui. Eh oui, mais malheureusement c'est un business la F1 et qu'à un moment faut prendre des points. On va écouter Charles Leclerc au micro de Canal après la course.
Est-ce qu'à un moment vous avez cru qu'il serait possible de gagner, de passer Norris?
Ouais, jusqu'au drapeau à damier, vraiment, même encore dans le dernier tour, je me suis dit ah, on sait jamais à Monaco. Il a commencé à pousser en plus ça je pense pour le meilleur tour en course, donc je me suis dit on sait jamais, mais bon. Voilà, on y croit jusqu'au bout, mais on savait sur le papier que ça allait être très très compliqué. Donc pas forcément énormément déçu après aujourd'hui parce qu'on s'y attendait un petit peu. Déçu pour hier, mais dans l'ensemble, c'est quand même un week-end extrêmement positif. On ne s'attendait absolument pas à se battre pour le podium et encore moins à être aussi proche de la victoire. Donc c'est super.
Charles Leclerc, donc, oui, qui ne s'attendait absolument pas à être là.
Faut juste qu'il m'explique pourquoi Norris aurait poussé pour le meilleur tour en course dans un championnat où ça ne...
Bon, c'est pour l'honneur, tu sais. Non, c'est pour le hat-trick, car il a fait le hat-trick.
Ah, exactement. Ouais, c'est son pour la troisième fois de sa carrière.
Ouais. Et comme quoi les pilotes te disent toujours, on ne s'intéresse pas au stade. Bah, tiens, mon œil. Comme il avait la pole, il avait la victoire, il s'est dit, je vais me faire le meilleur tour en course.
Puis je ne crois pas dur, absolument hein. Pas.
Bah, t'avais de l'air, donc...
Il fallait juste qu'il roule un peu, c'est pas compliqué.
Tu disais Nico?
J'y crois absolument pas à cette phrase où les pilotes regardent pas les stats. T'es pilote de Formule 1 et tu regardes pas les stats, impossible. je peux pas y croire. Louis, est-ce que pour toi aussi t'entrevois une éclaircie? Ou alors, bon, on sait que c'est Monaco, on sait que c'est un week-end particulier.
Ouais.
Mais malgré tout, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train un peu de se passer du côté de la Scuderia?
Moyen, je t'avoue. Je suis assez dubitatif. Je vois comme vous, on va dire, une évolution plutôt positive, mais c'est des sauts de puce. Donc, je pense que la saison, bon, ils vont revenir, tu vois, dans un monde où ils vont faire des bons week-ends, des choses comme ça. Mais je pense quand même que les espoirs du début de saison, il faut les oublier. Ils vont pas, je les vois pas gagner un Grand Prix cette année, ou peut-être un ou deux après la pause estivale, tu vois, s'il se passe des choses. Mais je pense pas. Je pense que c'est bien parce qu'il quand même d'être revenu là où ils en sont, parce que bon, il était temps, mais un peu quand même. Il fallait revenir à un niveau décent. Mais d'attendre des exploits ou des merveilles de la Scuderia sur cette saison-là, non, j'irai pas jusque-là, perso.
Oui, ça c'est clair que je te rejoins là-dessus. Mais au niveau de la confiance, ça doit leur faire un bien fou, quand même. Bon, même si le pauvre Lewis, on l'a dit.
Oui, oui. Ouais, ça va dans le bon sens, je te dis. On va attendre un vrai circuit, hein, un vrai circuit où il y a de la performance,
ouais,
et où
il y a
possibilité,
ouais,
voilà, de se livrer à fond. Dans un genre différent, le Canada en est un. Vous vous rappelez où ils étaient largués l'an dernier, après la victoire, hein, au Canada, ils n'avaient pas mis un pied devant l'autre, bizarrement. Bah, entre Espagne et Canada, on saura là vraiment où en est la Scuderia. Voilà.
Parlons de notre petit duo de Français, là, Isaac Hadjar et Esteban Ocon, qui ont bien cartonné à Monaco, ça fait plaisir. Isaac Hadjar qui réalise son meilleur résultat en qualif et en course, et ça c'est quand même fort. On en parlait encore là après Imola, on disait qu'il réalisait un début de saison parfait, qu'il ne fallait pas s'enflammer. On l'écoute, Isaac, au micro de Canal.
On est resté sur le plan A, Liam il a bien joué le jeu, et on s'est offert nos arrêts au stand assez tôt dans la course, et puis... On a sécurisé la 6ème place très tôt. C'est une bonne course. Honnêtement, c'était un peu long. Mais je suis super content pour l'équipe. Et c'est bien d'avoir eu Liam qui finit 8ème aussi. Là, je suis vraiment fier de moi. Là, j'ai vraiment fait un week-end solide. Je suis très content aussi de la progression. On a eu beaucoup de mal au début. Et petit à petit, on a fait les steps qu'il fallait. Et partir 5ème aujourd'hui, c'était assez ouf. Et être dans le train des grosses têtes, c'était cool aussi. Donc je suis très content.
Parce que c'est vrai que pour la première fois de la saison, Louis Hadjar a matché avec les grands noms de la Formule 1, top 5 là. Il était en train de se bagarrer avec eux.
Bah ouais, il fait meilleur qualif de sa saison, meilleur résultat, il est au top. Et puis moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce week-end pour Hadjar, c'est les débuts. enfin c'est plutôt cette espèce de remontada, j'aime pas ce mot mais je l'emploie quand même, parce qu'il commence un vendredi, vraiment, quand t'es rookie à Monaco et que tu commences comme ça, donc pour rappel, il fait deux erreurs, hein. Il attrape deux fois un mur, enfin bref, ça va vraiment pas du tout. Il rentre, comme à la Charles Leclerc, il se met des tirs en interview, mais derrière, il y en a un qui lui en met un gros, c'est Helmut Marko qui lui dit il faudrait qu'il arrête de chouiner, qu'il se concentre sur la conduite. Tu te dis, bon, il y en a plus d'un qui aurait peut-être été à 3 secondes des temps à la séance d'après ou quoi. Que nenni, bien au contraire. Et puis à la fin, il fait son meilleur week-end de la saison. Et une très très belle qualif. Et une course tout à fait solide où il fait tout ce qu'il faut. Il avait des temps à respecter aussi parce qu'on avait la chance sur le diffuseur canal de pouvoir. Il pouvait interviewer Méquies en même temps, le team principal de l'écurie, oui, qui expliquait un peu ce qui se passait et que du coup Isaac avait un temps autour à respecter pour justement des raisons avec Lawson ou les gens de devant, enfin voilà, toutes les stratégies un peu étranges que la règle inédite nous a fait découvrir hier. Mais du coup, moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est le côté, je commence vraiment très mal dans un endroit où il faut construire ton week-end, où il faut aller chercher la confiance. Jean-Luc l'avait dit la semaine dernière, que c'est un désert, c'est Monaco qui doit t'accepter et il faut y aller de plus en plus proche des rails, tout ça. Lui, il est allé mettre deux coups dans les rails dès le vendredi et puis finalement, il fait son meilleur week-end. Donc ça, je trouve ça assez impressionnant parce que je pense que tout le monde n'est pas capable de remonter la pente à Monaco.
Il a cette personnalité et cette capacité à se remettre en question depuis qu'il est arrivé en Formule 1, Jean-Luc Isaac Hadjar. Alors, on parlait des critiques d'Helmut Marko, mais je pense qu'il n'a pas activé les notifications d'Helmut Marko sur son téléphone, Hadjar. J'ai l'impression qu'ils sont, ils sont fous complets de ce que peut dire Helmut Marko. Il fait son truc et c'est vrai que la pression glisse un petit peu sur lui parce que ce que disait Louis est totalement vrai. Je ne sais pas si tu le perçois comme ça, mais cette capacité, Jean-Luc, après avoir tapé deux fois le vendredi, à se remettre en selle et à aller chercher cette qualif-là, c'est quand même très fort.
C'est exactement ça. Écoute, de toute façon, tu sais, à chaque fois que vous m'interrogez sur lui, je vous dis il est solide et il est de plus en plus solide. Et jeudi, l'exploit va venir. Alors là, je vais être terrible, ça n'en est pas encore un. Alors, on parle des qualifs, hein, parce que la cour, je préfère ne pas trop en parler. Mais en qualif, il met un millième à Alonso. Une 10-923, une 10-924, mais c'est ça qui compte. Il lui met le millième. Et puis, juste derrière, à 19 millièmes, on a Esteban Ocon, qui est un pilote très rapide aussi. Une 10-942. Alors, si on relativise, on est quand même à environ une seconde, hein, de la perf de Norris. Faut pas rêver non plus. Et à 9 dixièmes de celle de Leclerc. Mais c'est quand même très bien. Et puis surtout, il commet deux erreurs. Donc effectivement, il se remet totalement. Une fois qu'il a baissé la visière du casque, il ne pense qu'à une chose, c'est la performance. Et là, il fait encore un très solide Grand Prix. Encore une fois, l'exploit va venir. Enfin, je vous le dirai, moi, quand je penserai que c'est un exploit. Pour le moment, c'est très solide. Il se construit, il acquiert de l'expérience, il ne commet aucune faute. Il participe et grandement aux très très bons résultats de son équipe, hein, puisque là, maintenant, il totalise 15 points sur les 22 qu'on a totalisés au départ dans cette équipe-là. C'est vraiment très bien. Il faut continuer comme ça. Et je pense qu'à la mi-saison, on pourra juger que ce sera un excellent premier début de saison et un excellent premier début de saison pour un rookie. Alors, il avait été toujours rapide à Monaco, hein, vous en rappelez dans le passé aussi. Donc, ça, c'est un élément qui compte. Mais c'est super. Écoute, c'est très bien. Il faut continuer comme ça.
12 points pour Racing Bulls, hein. Depuis le début de saison, c'est bien évidemment leur meilleur perf. Et Isaac Hadjar qui a 15 points. Sur les 22 totalisés par son écurie, c'est assez énorme. Esteban Ocon, lui aussi, il a fait fort. Esteban Ocon qui a largement dominé Oliver Berman sur ce week-end. Et ce n'était pas forcément le cas depuis le début de la saison. Louis, et en plus Ocon, je crois qu'il restait sur trois courses sans marquer de points, donc voilà, il avait besoin de relancer la machine et il a été très bon le samedi notamment.
Alors lui, sa saison elle est dure à suivre aussi, il faut être solide dans la tête pour quand tu montes dans ta voiture le vendredi et tu dis qu'est-ce qui peut bien m'arriver ce week-end, parce que t'en as aucune idée quoi. Donc là on est sur un week-end particulièrement propre. Moi, je m'attendais à vraiment à rien pour le coup, donc du coup, surprenant. C'est pas la première fois qu'il fait des merveilles là-bas. Donc, comme Jean-Luc le dit souvent, Monaco est un des grands prix où le pilotage est le plus important. Et comme par hasard, c'est souvent là qu'on le retrouve. Justement, je pense que c'est tout sauf un hasard. Et bah, vivement qu'il ait une voiture qui lui permette d'exploiter son talent plus qu'une fois par an, plus que deux fois par an. Parce que c'est bien de marquer les points à chaque fois, mais si c'est deux fois par an, ça fait peu quand même, quoi. Donc, il mérite.
Ouais, mais il n'avait pas l'Alpine pour le faire déjà. J'ai l'impression que là, il est plus en capacité d'aller chercher des points cette saison avec la Haas.
Ouais. Oui, mais elle est tellement, elle a l'air tellement étrange cette voiture. Je sais pas à quel niveau ça se joue pour avoir des performances, des prestations si différentes. Si c'est juste une mauvaise compréhension, si c'est juste une voiture compliquée, si c'est un peu de tout. Mais en tout cas, moi, je pense qu'en tout cas, ça ne vient pas du pilote. Je m'inquiétais un peu parce que Oli Berman était souvent devant lui ces derniers temps. Et donc, il était plus sur cet aspect-là, temps de réagir. Parce que, tracteur ou pas tracteur, il faut que tu sois devant ton coéquipier, quoi. Et donc là, au moins, ce week-end-là remet un peu Ocon à sa place de leader de l'écurie. Et si la voiture va mieux, si elle est mieux comprise... Bah ouais, on sait de toute façon qu'il fait partie de ces pilotes où à chaque fois qu'on lui donnera de quoi faire quelque chose, tu l'as dit au début du podcast, il va le faire. Donc moi, j'ai hâte et puis sur un plan plus personnel, je pense que ça fait un bien fou dans la tête parce que ce début de saison était très compliqué et que là, c'est un beau bol d'air et sûrement de l'énergie emmagasinée pour la suite de la saison, quoi.
C'est clair que c'est un bon bol d'air pour lui, on l'écoute au micro de Canal.
Ouais, ça a été des rythmes très différents à certains moments. Il a fallu pousser fort, à d'autres moments gérer, à d'autres moments voir un petit peu la dégradation et plutôt réfléchir et ralentir devant le box pour bien sécuriser la position. Mais c'était une belle bataille avec Isaac tout le long de la course. Bravo à lui pour cette belle course et ce beau week-end. Voilà, pour nous, je pense qu'on fait le maximum qui était possible aujourd'hui. On ramène de beaux points pour l'équipe et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc, ouais, je pense que c'était un week-end bien construit, on a fait ce qu'il fallait, on n'a pas mis une roue dehors tout le week-end, donc ouais, plutôt content de ce week-end.
Ouais, Esteban Ocon, Jean-Luc, qui a marqué 20 points, oui. Berman 6, parce que c'est vrai qu'il a été dominé parfois par Berman en qualif, mais sur
en
le
qualif, ouais.
Hein, plan comptable, il n'y a pas match entre les deux pilotes. Hein.
Bah écoute, moi je suis ravi de le revoir parce que j'adore Esteban aussi évidemment. Comme le disait Louis, effectivement c'est un pilote très rapide et il n'avait pas pu le démontrer. Alors pour des raisons qu'on ignore, globalement il n'arrivait pas à tirer le meilleur de la monoplace en qualif. En course ça allait toujours un peu mieux et puis je rappelle quand même ses points en attestent. Hein, 20 points, bah il est, mais puisqu'on vient d'en parler, il est 5 points devant Hadjar quand même, c'est pas mal. Et lui aussi c'est lui qui contribue beaucoup aux points marqués par son équipe. Hein. C'est une évidence puisque au total il n'y en a que 26, donc il en a pris beaucoup pour lui-même. Écoute, c'est un retour aux affaires dans le bon sens du terme. On sait qu'il est solide. Effectivement, à plusieurs reprises, il a été sur les talons de la Racing Bull d'Hadjar sans pouvoir évidemment placer une attaque réelle. Il termine à moins d'une seconde. C'est un très beau résultat. Et tout est dans la qualif, comme toujours en F1. C'est-à-dire que s'il arrive à se qualifier dans le top 10 en Q3, ça va changer complètement les courses où Esteban est toujours là, sa monoplace aussi et son équipe aussi. Donc, faut continuer là aussi à se qualifier dans le top 10, il n'y a pas de secret. Alors ça va être plus difficile certainement à Barcelone pour les raisons évoquées que Louis a rappelé, parce que la part du pilote est malgré tout un peu moins importante par rapport à celle de la monoplace, mais allez, s'il arrive déjà à être en Q2, ce sera pas mal.
Ouais. Parlons un petit peu des Mercedes, les gars, qui se sont fait complètement piégés, notamment par les stratégies du dimanche, hein. Parce que des fois, quand même, hier à Monaco, j'ai l'impression que c'était le périph à l'heure de pointe, hein, les bouchons. Voir la rocade bordelaise cumulée, ouais. Il y avait les deux. Hein. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, enfin on ne l'a pas précisé à nos auditeurs, mais cette stratégie, en fait, Louis, l'idée c'était de créer un bouchon pour offrir un arrêt gratuit à un de ses pilotes. C'était ça, en fait, le but de la stratégie. Hein.
Bah oui, il fallait... C'est combien de temps à peu près à Monaco? Je crois que c'est 26.
C'est 19 secondes.
19. Donc ouais, donc il te fallait aller 21 pour pallier pour pallier la une erreur de tes équipes de pit stop potentiellement. Mais oui c'est ça. Il fallait faire un trou de 20 secondes. Donc bah il y a pas 1000 moyens pour le faire. Il y en a qu'un. Bah c'est tu ralentis et puis comme tu peux pas doubler là-bas, bah ça fait des bouchons. Et ça qui rend le truc ubuesque. Et je te dis, moi, l'image de Norris que tu imagines au bout du bout, n'arrivant à peine à contrôler Charles et quoi, et puis en fait, une fois que la voie est libre, mais il disparaît comme. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord.
Il met 3 secondes.
On regardait une gabegie, comme dirait Moscato, puisqu'on reprend toutes ces, on reprend toutes ces expressions aujourd'hui. Donc c'est, ouais, non, c'est clair. Il faudra trouver quelque chose de moins artificiel. Il faudra peut-être passer sur des choses techniques. J'entendais, je ne sais plus qui hier, maintenant, c'est pas Adrien Tambay, parler de potentiellement d'aller sur des pneus encore plus soft. Enfin, quelque chose, en fait, qui est créé par des éléments et non pas. Une règle que tu vas poser là comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, et qui va faire quoi? Qui va juste donner une seule envie, c'est à tous les ingénieurs de la retourner dans tous les sens pour trouver la brèche. Donc de toute façon, c'est comme ça, mais la dernière truc, c'est qu'après, on aurait pu arriver à un problème de sécurité. Parce que les bouchons, ça peut, à la fin, tu vois, potentiellement être... être compliqué, mais ouais, c'était
carambolage.
Surtout...
Carambolage sur la 10.
C'était ça, sur... Ça, tout ça, ouais, on aurait fini sur... Jean-Luc aurait dû finir le Grand Prix sur 107.7. Mais pour expliquer un peu ce qui se passait. Mais non, c'est... Ouais, c'est... On espère ne pas le revoir. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine, s'ils vont vouloir revenir au classique, s'ils vont vouloir trouver... une nouvelle idée, une brillante idée, peut-être avec le partenariat Mickey, ça donnera des idées, je sais pas, mais en tout cas, ouais
avec les... des masques.
Ouais, voilà. Non, mais ces 20 secondes là, elles étaient ridicules. Mais moi ce qui m'a fait rire aussi, c'est le, moi j'ai évolué en fait, si tu veux, pendant le Grand Prix. C'est-à-dire qu'au début du Grand Prix, quand on voit Isaac le faire et tout, je suis un peu sur la ligne des commentateurs où je crie pas au génie, mais je
au
fais
génie,
ah
ouais.
Yes, ah ils l'ont bien fait. Ah, punaise, c'est malin et tout. En revanche, je pensais naïvement que du coup, ça allait permettre à Isaac de faire un bond au moment des autres pit stops. Mais non, parce qu'il y a eu tellement de temps perdu pour pouvoir faire ça, qu'en fait, t'étais à la rue, si tu veux, pour remonter, en fait. C'était juste pour garder ta place, quoi. Et plus ça avançait, plus je me rendais compte que c'était quand même des coups d'épée dans l'eau, toutes ces affaires. Et ça m'a fait beaucoup rire sur Twitter. Après, j'ai vu... un mème qui expliquait qu'en gros, un arrêt, deux arrêts, on a vécu plein de choses, mais à la fin, ça revenait au même. On s'est un peu embêté parce que on peut pas doubler, et puis parce qu'il n'y a pas grand chose à espérer, à part, comme le disait Jean-Luc, on a beau avoir dansé tout le samedi, il n'y a pas eu de pluie, quoi. Donc,
moi j'ai une question pour Jean-Luc. Que sur l'aspect sportif pur, parce que tu as commenté des courses où il y a eu des drames en Formule 1, bien évidemment. Mais est-ce que c'est un des Grands Prix les plus décevants que tu aies jamais commenté, avec toute ton expérience?
Oui, écoute, d'où ma note. Je t'avoue honnêtement, tu sais, j'essaie, là tu es obligé de te forcer un petit peu, de garder de l'enthousiasme. Effectivement, quand j'ai vu la stratégie se dessiner, écoute, c'est dur, ce que je vais dire est très difficile, mais on est là pour être franc. Hein. On est là pour vendre malgré tout du rêve aux gens, il ne faut pas leur mentir. La difficulté pour moi, elle est là. Ce que certains, à mon sens, dans le métier que nous pratiquons, malheureusement ne font pas, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre des vessies pour des lanternes et de le faire avaler aux gens, je ne le ferai jamais. Je n'essaie pas de le faire. Donc, tu es obligé de garder de l'enthousiasme parce que c'est quand même une course automobile, c'est quand même Monaco, c'est quand même le Grand Prix le plus suivi de la saison, qu'on le veuille ou non. Même s'il s'agit d'un défilé où les règles sont de plus en plus grotesques, à mon sens, voire complètement artificielles. C'est d'ailleurs les vrais pilotes, j'en reviens, je suis navré une nouvelle fois, à Verstappen, qui dit maintenant il faut nous mettre des bananes dans la bagnole et on va les balancer dans les virages à certains endroits. Pourquoi pas? Enfin, on est tellement dans le délire qu'on peut imaginer des choses artificielles pour recréer, non pas du sport, parce que ça, malheureusement, je l'ai dit, ça passe par du travail de fond sur les monoplaces. Il faut leur redonner de la vraie performance, il faut remettre le talent des pilotes en avant, et il faut leur permettre, grâce à leur talent, de dépasser, même là, avec des zones de freinage rallongées. Alors, Adrien Tambay, alors là, lui, je peux vous dire que je l'ai formé de A à Z, puisque parce qu'il était entre Patrick et moi-même pendant des dizaines et des centaines de Grands Prix, bah, sur Canal, justement, à l'époque. Il était entre nous dans la cabine de pilotage, dans la cabine de commentateur, pardon, lapsus révélateur, et après RMC, puisque j'en ai fait beaucoup également, oui, avec Patrick. Il était entre nous, donc je ne dirais pas qu'il a été à bonne école, ce serait très prétentieux. En tout cas, effectivement, bah, il faut faire varier des composantes, notamment techniques, entre autres, pour ne pas faire des éléments comme ça, j'allais dire artificiels, des décisions artificielles au dernier moment de la FIA. Ah bah tiens, si on mettait un deuxième arrêt, bah, encore une fois, comme dit Verstappen, poussez le raisonnement à l'extrême, mettez-en 10, pourquoi pas. Bon, les bananes, ça c'est une plaisanterie, et arroser les virages, ça reste une plaisanterie, je dirais, pour le moment. On va voir combien de temps on met à en arriver là. Non, il faut repenser le règlement, beaucoup plus que ça n'est fait actuellement. Moi, j'avais entendu parler, comme vous, hein, des moteurs V10, on a complètement enterré le truc pour des raisons que je ne commenterai pas là non plus. Je peux, mais ça va être un peu dur. Donc, parce que la F1 ne sait pas tellement se remettre en cause et que maintenant, c'est un énorme business, c'est un paquebot. Et vous savez, un paquebot, quand vous donnez un coup de barre, eh ben, on change de direction 5 à 10 km plus loin. Ben, c'est la F1 aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai qu'on est loin quand même du débrief du Grand Prix Monaco l'année dernière où c'était la victoire de Leclerc, il s'était passé plein de trucs. Là,
c'est, oui, puis c'est déjà, il y avait.
On était enthousiasmé par cette belle victoire.
Ouais, c'est ça, il y avait tout un storytelling aussi.
Il y avait un storytelling autour, bien sûr, qu'il n'y a pas eu là. Oui, parce que Lando Norris, ça fait quand même moins monégasque que Charles Leclerc, tu vois.
Ouais. Même si alors qu'il l'est tout autant aujourd'hui.
Ouais. Enfin, bon, les gars, on se retrouve jeudi parce que la Formule 1 continue quand même son triple header. Ça s'arrête plus là. Direction, direction les tapas.
On y croit.
Ah oui, direction les tapas, direction aussi changement de règlement pour cette année. On va checker un petit peu les ailerons. On va voir si ça a un impact aussi sur la course. Bah, on en parlera dans le warm-up de jeudi d'ailleurs, de ce changement de réglementation là qu'on annonce un petit peu comme un moment phare de la saison. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de survendre tout ça? Bref, on en parle jeudi. D'ici là, vous partagez le podcast, vous continuez à nous noter, vous continuez à nous envoyer des messages, à commenter, à vous abonner à la page Instagram RMC Formule 1. Vous allez voir, il y a plein de passages du paddock.
Vous allez voir un peu l'équipe de mannequins qu'est le paddock RMC.
Oui, parce que c'est vrai qu'on est en vidéo. Et vous allez voir qu'on a globalement, sauf Jean-Luc, tous des physiques de radio. Voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu nos cabines, vous vous abonnez à la page RMC Formule 1 sur Instagram. Allez, ciao, à jeudi, bye bye.
Salut.
Salut.
Le paddock RMC.